22h passées de 30 secondes, vous êtes sur Europe 1. Tout de suite le journal, Sophie Tussaud.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de la nuit. À la une de l'actualité ce soir, le parquet a évoqué un meurtre atroce. 23 ans après la mort de Sophie Toscan du Plantier, la cour d'assises de Paris condamne Yann Bailey à 25 ans de prison. Les syndicats de police vont debout après les déclarations du procureur du Paris qui annonce le renvoi en correctionnel des policiers impliqués dans des violences lors de manifestations. Les propos rassurants du ministre de l'Éducation, ce matin il a promis sur Europe 1 que les épreuves du bac se passeraient normalement et ce malgré l'appel à la grève. Les lingettes jetables bientôt taxées, le gouvernement y songe car elles sont trop polluantes. Dans ce journal également, le bilan des Français aujourd'hui à Roland-Garros. Du football, France-Chine, dernier match amical de l'équipe féminine avant le mondial. Comment ça se passe pour les Bleus, Julien Froment?
Eh bien ça vient de reprendre, l'équipe de France mène 1-0 depuis la 30e minute de jeu, but signé Valérie Gauvin.
Merci Julien Froment, on vous retrouve à la fin de ce journal. Et puis comme tous les soirs, la bourse avec Claire Lemaître, l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir à 22h20, Eric Babola, PDG de Babola, sans oublier les unes de la presse de demain.
Europe 1.
C'était un procès 23 ans après les faits. La cour d'assises de Paris condamne en son absence Yann Bailey à 25 ans de prison pour le meurtre de Sophie Toscan du Plantier commis en Irlande. La justice française émet également un nouveau mandat d'arrêt à l'encontre du Britannique. À l'issue de ce verdict, c'est le soulagement pour la famille de la victime, comme l'a exprimé son fils Pierre-Louis Baudet-Vigneau.
C'est une victoire après 22 ans d'attente, 22 ans de souffrance, 22 ans de questions. Les juges ont condamné Yann Bailey, qui a tué ma mère il y a plus de 22 ans, à 25 ans de prison. Donc c'est une victoire pour la famille, c'est une victoire pour la vérité. Nous sommes très confiants. Il y aura un nouveau mandat d'extradition. Il faudra que l'Irlande assume ce mandat, cette extradition. Donc maintenant, c'est une étape décisive et nous allons continuer à nous battre pour que la justice, après avoir été dite, soit faite, que Bailey aille en prison en France, en Irlande ou ailleurs.
Le fils de Sophie Toscan du Plantier au micro européen de Jean-Gabriel Bourgeois. Autre procès aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Bobigny, celui de 6 hommes accusés d'avoir voulu attaquer un campement rom après la propagation sur les réseaux sociaux de rumeurs d'enlèvement d'enfants. Hélène Terzian, vous avez suivi l'audience pour Europe 1, la procureure a requis jusqu'à 7 mois de prison ferme.
La procureure a insisté sur le caractère raciste des faits. La rumeur, c'est un prétexte pour justifier les violences et de poursuivre. Il est incontesté que ces faits ont été commis en raison de l'origine des victimes. C'est justement ce que sont venus plaider les avocats des associations antiracistes, partie civile dans ce dossier. Maître Henri Braun, avocat de l'association La Voix des Roms, dénonce même les rumeurs ancestrales qui ciblent cette communauté.
Je pense que les prévenus se sont crus autorisés à mener leur ratonnade à cause des préjugés ataviques dont ils se sont fait l'écho. On reconnaît enfin l'antiziganisme comme une forme de racisme et tous les types de racisme doivent être combattus de la même façon.
Un à un à la barre, ces hommes de 23 à 27 ans d'origine africaine se sont pourtant défendus d'être racistes. Le mot raciste me fait mal parce que moi-même j'en ai été victime, a dit l'un d'eux. Lorsqu'en mars dernier, ils se sont rendus dans le campement rom, ils ont réagi à chaud. Ils étaient, je cite, inquiets pour leurs petits frères, leurs petites sœurs, leurs neveux. Certains ont cru en la rumeur évoquant de potentiels trafics d'organes ou un réseau de prostitution. On voulait juste vérifier par nous-mêmes si c'était vrai. Aujourd'hui, tous ont reconnu que cette rumeur était infondée. Alors, comment allez-vous faire pour ne plus vous faire avoir ? Demande la présidente. Je vérifierai ou j'appellerai la police la prochaine fois, a répondu l'un d'eux.
Merci Hélène Terzian et le jugement sera rendu le 14 juin. Le suspect de l'attaque au colis piégé à Lyon va passer sa première nuit en prison. L'étudiant algérien de 24 ans qui a reconnu hier avoir prêté allégeance au groupe État islamique en son fort intérieur a passé la journée dans le bureau du juge antiterroriste. Il est mis en examen pour tentative d'assassinat terroriste et a été placé en détention provisoire. Nouveau rebondissement dans l'affaire Vincent Lambert. Le gouvernement se pourvoit en cassation. Elle lui demande de trancher la décision de la cour d'appel de Paris qui a ordonné la reprise des traitements qui maintiennent en vie ce patient tétraplégique en état végétatif depuis plus de 10 ans. Les déclarations du procureur de Paris créent la polémique. Dans les colonnes du Parisien aujourd'hui, Rémy Heitz assure que les policiers impliqués dans des violences lors de manifestations seraient renvoyés en correctionnel d'ici la fin de l'année, ce qui a provoqué une bronca de la plupart des syndicats de police. À l'inverse, David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, estime la procédure légitime.
Lorsqu'un policier commet des violences illégitimes, et bien comme tout citoyen, il est susceptible de rendre des comptes devant la justice. Et par ailleurs, être renvoyé devant un tribunal correctionnel, ça n'est pas une culpabilité ou une condamnation, c'est l'occasion d'aller expliquer à la justice les faits, de se défendre et de faire état de sa défense. Je crois qu'il faut faire confiance en la justice et ne pas polémiquer sur cette annonce. Et ça doit couper court à tous les polémistes, voire les complotistes, qui pensaient que les policiers bénéficiaient d'une sorte d'impunité générale. C'est totalement faux. Il faut rappeler que les policiers sont des justiciables et surtout que c'est une administration qui est extrêmement contrôlée et parfois extrêmement sanctionnée. Et c'est la justice qui se chargera de procéder aux condamnations si toutefois il y a des policiers qui sont reconnus fautifs. On est dans une période très difficile. On n'enlèvera jamais à la police ce courage immense et les 6 mois que chacun vient de passer dans les rangs des forces de l'ordre pour faire face à la haine et face à la violence. Et face à cette haine et à cette violence, il peut y avoir des gestes, des actes, des actions qui soient illégitimes, elles sont minoritaires. Et ces actions-là devront être jugées par la justice parce qu'il en va ainsi de l'état de droit.
David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
Europe 1.
Jean-Michel Blanquer s'est voulu rassurant ce matin sur Europe 1. Aucune inquiétude à avoir, les épreuves du bac se passeront normalement, c'est ce qu'a assuré le ministre de l'Éducation, alors que plusieurs syndicats ont appelé à la grève le premier jour des épreuves pour protester contre les réformes.
Nous allons veiller à ce que chaque session se passe comme elle doit se passer, elle se passera avec les personnels adéquats. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de grévistes de toutes les façons. Je suis un peu surpris par cet appel, d'autant plus qu'il correspond à des revendications auxquelles je réponds déjà, notamment sur la rémunération des professeurs, pour lequel je dis clairement qu'il y a en effet un sujet, et je le dis nettement, sans aucune ambiguïté, et je connais les professeurs de mon pays, de la France. Je sais qu'ils ont le sens des responsabilités et qu'ils savent bien qu'on ne prend pas les élèves en otage, et donc je suis serein sur ce point. Et c'est mon devoir de dire à chaque élève et à chaque famille qu'ils ne doivent pas se préoccuper de ce sujet. C'est mon devoir d'assurer le fait que ça se passera bien. Nous organiserons le baccalauréat, évidemment, de façon normale. Et c'est dommage qu'il y ait des appels de ce type.
Jean-Michel Blanquer, invité d'Audrey Crespo-Mara ce matin sur Europe 1. On les utilise un peu pour tout, pour faire le ménage ou se démaquiller, les lingettes jetables. Le gouvernement veut taxer les fabricants sur le principe de pollueur-payeur. Ce sera même dans la future loi sur l'économie circulaire. Chanel Petit, il faut dire, ces lingettes sont un véritable désastre pour l'environnement.
Oui, et le premier problème, c'est que les lingettes, on ne sait pas les recycler. En fait, elles sont composées de plusieurs matériaux, dont des plastiques très résistants, des produits chimiques qu'on ne peut pas séparer. La seule issue, c'est donc la décharge ou l'incinération. C'est pas terrible. Et ça encore, c'est le meilleur des cas quand ces lingettes ne sont pas jetées, hop, directement dans la cuvette des toilettes, ce qui provoque des bouchons qui rendent fous les gestionnaires des stations d'épuration, des pannes qui coûtent chaque année plusieurs dizaines de milliers d'euros à certaines collectivités, les grandes villes, Paris, Bordeaux, Orléans, mais aussi les petites comme l'S20 dans le Finistère où Joël, plombier de la mairie, est débordé.
Il y a des lingettes qui bouchent en permanence sur les pompes. On intervient une à deux fois par semaine, on a toujours la lingette en entier. Ça se dégrade pas. C'est mi-biodégradable pourtant, mais non.
Un constat donc assez désolant, mais les industriels trouvent quand même à dire que les lingettes sont d'une certaine façon bonnes pour l'environnement. Grâce, je vous laisse juger de la pertinence de cet argument, à l'économie d'eau réalisée en remplaçant une éponge ou un gant de toilette.
Merci Chanel Petit, effectivement chacun se fera son idée. Dans l'actualité internationale, ce nouveau vendredi de manifestation en Algérie, le 15e depuis le début du mouvement de contestation. Les manifestants ont à nouveau défilé en nombre dans les grandes villes du pays pour réclamer un changement de pouvoir. Nour Chahin, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Algérie. Ces marches ont à nouveau eu lieu en dépit des nombreuses arrestations qui ont eu lieu dans la matinée.
Effectivement, malgré le caractère pacifique des marches contre le système, les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs interpellations, des intimidations, selon Hamid, la quarantaine, qui voit là le résultat de l'implication de l'armée dans la vie politique.
On a vu des gens interpellés par la police pour le fait qu'il brandissait un emblème national. C'est grave, c'est une dictature militaire. On a un chef d'état-major qui s'adresse à la nation chaque mardi. Et là, le peuple est appelé à se libérer de ce diktat de l'armée.
Voilà donc autre manifestant rencontré à Alger. À 20 ans, Mounir, étudiant, a été déjà arrêté 3 fois pour avoir manifesté. Pour lui, rien n'entamera la détermination du peuple dans sa lutte pour la liberté.
J'ai foi en cette mobilisation. Je sais pertinemment que les Algériens ne vont pas lâcher. D'ailleurs, même durant le mois sacré, malgré le jeûne, la soif et la faim, les gens, dès les premières heures du matin, ils occupent les places publiques. Et ça continuera jusqu'à ce qu'on aura satisfaction de toutes nos revendications.
Oui, alors il faut dire des revendications, alors que doit se tenir l'élection présidentielle le 4 juillet prochain, mais dont la tenue devient incertaine, Nour.
En fait, on ne parle même plus d'élections dans la rue. Pour les Algériens, cette question est déjà tranchée. Il n'est pas question de tenir une présidentielle en juillet, comme souhaité par l'armée. D'ailleurs, de toutes les façons, le projet d'un scrutin pour le 4 juillet est tombé à l'eau, tout simplement parce qu'il n'y a pas de candidat.
Merci Nour Chahine, correspondant d'Europe 1 en Algérie. Le Missouri ne deviendra pas le seul État américain sans clinique à pratiquer l'avortement. Les autorités laissent ce soir finalement sa licence à l'unique centre IVG de l'État. Le dossier sera réexaminé lors d'une nouvelle audience mardi prochain. C'est une annonce qui a fait grand bruit en début de semaine, celle du rapprochement entre Renault et Fiat Chrysler, une alliance qui créerait un nouveau géant de l'automobile. Seulement, Emmanuel Dutheil, tout n'est pas si simple. Dès qu'on parle d'argent, ça coince.
Bah vous savez, les questions d'argent, c'est souvent ce qui est le plus compliqué à régler. Là, le souci, c'est que Fiat a proposé de se marier avec Renault au moment où le cours de bourse de Renault est au plus bas depuis 5 ans, ce qui veut dire que Renault coûte aujourd'hui beaucoup moins cher que ces dernières années. Mais du côté de chez Fiat, on estime avoir fait la meilleure offre possible. C'est la proposition la plus équilibrée, disent-ils. Autrement dit, pas question de donner un euro de plus. Les administrateurs de Renault vont devoir rapidement trancher. Un conseil d'administration est prévu mardi chez Renault. Soit les bans sont publiés à l'issue, soit tout s'arrête et chacun reste chez soi. Du côté de l'État français, qui est le plus gros actionnaire de Renault, on soutient le projet industriel à Bercy. On estime que cette opération peut être très profitable à Renault et au marché européen. Mais on estime aussi qu'il faut défendre les intérêts patrimoniaux, comme ils disent. Bref, on est aussi là face à un petit coup de poker menteur de chaque côté.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Et Renault apportera sa réponse à Fiat Chrysler mardi, après avoir réuni son conseil d'administration.
Le journal de la nuit, avec Sophie Tussaud sur Europe 1.
Le football, et on prend la direction de Créteil, où les Bleus ES jouent leur dernier match amical avant le coup d'envoi du Mondial la semaine prochaine. Julien Froment, et les Chinoises se battent face aux Françaises.
Oui, exactement, 56e minute de jeu et un partout entre la France et la Chine. Pourtant, ça avait très bien commencé pour les Bleus. Les joueuses de Corinne Diacre ont mené dès la première demi-heure grâce à un très beau but signé de l'attaquante Valérie Gauvin qui a conclu, alors qu'il y a une frappe et le deuxième but français. Donc j'allais vous dire que les Françaises donc, avaient ouvert la marque par l'intermédiaire de Valérie Gauvin, avaient été égalisées par Wang à la 52e. Et là, à l'instant, eh bien, la France reprend le dessus sur la Chine grâce à une superbe frappe signée Kadi Diagne au 25 mètres. Frappe dans le petit filet, la gardienne chinoise ne peut strictement rien faire et la France se remet à l'endroit dans cette rencontre. Et bien, dernier match de préparation avant la Coupe du Monde, on le rappelle, un match d'ouverture le 7 juin. Ce sera au Parc des Princes face à la Corée du Sud, un match à suivre bien évidemment sur Europe 1. Donc 57 minutes de jeu et 2-1 pour l'équipe de France face aux Chinoises.
Merci Julien Froment à Créteil pour Europe 1, le tennis.
Europe 1 en direct de Roland-Garros.
Et Roger Federer s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Le Suisse estime avoir atteint son premier objectif après 3 éditions manquées. Ça passe aussi pour Rafael Nadal qui a lâché un set mais a fini par s'imposer aujourd'hui face au Belge David Goffin. Et côté français, quel est le bilan de cette journée, Christophe Lamarre?
Il était presque écrit que ce serait lui. Benoît Paire s'offre une deuxième semaine à Roland-Garros pour la première fois de sa carrière. Depuis le début de la quinzaine, l'Avignonnais ne sort pas de la route qu'il s'est fixée. Son caractère reste imprévisible, tout comme son jeu, mais le voilà qualifié pour les huitièmes de finale. C'est le Français en forme du moment puisqu'il reste sur un succès en finale du tournoi de Lyon la semaine dernière. Nicolas Mahut aurait bien aimé l'imiter, mais Leonardo Mayer était plus fort ou plus réaliste ou tout simplement plus frais. Le Français, en délicatesse avec son dos, a dû faire intervenir le kiné pour soulager ses douleurs. À 37 ans, Nicolas Mahut entretient le suspense. C'était peut-être son dernier Roland-Garros. Lui, en revanche, reviendra, c'est sûr, à 20 ans. Corentin Moutet a connu le grand frisson. Il n'est passé pas loin d'une qualification pour les huitièmes. Elle lui échappe au bout d'un cinquième set cruel qui profite à un autre Argentin, Juan Ignacio Londero. Un autre Français verra les huitièmes, mais il faudra attendre demain soir pour le savoir. Gaël Monfils sera opposé à Antoine Huang.
Merci Christophe Lamarre à Roland-Garros pour Europe 1, radio officielle du tournoi.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Et on passe à la météo, Valérie Darmon. Week-end étouffant, les températures vont beaucoup grimper.
Absolument, et demain matin, les minimales oscilleront entre 6 en Alsace et 17 près de la Méditerranée, et les maximales s'échelonneront entre 20 près de la Manche. Plus nuageux qu'ailleurs, surtout en matinée, à 33 en Aquitaine et en Languedoc-Roussillon. Évidemment, à l'ombre et sous abri. Alors, je vous donne quelques maximales en ce samedi 1er juin. 24 annoncés à Nice et Montpellier, 25 à Marseille et Quimper, 27 à Charleville, à Langres et à Vannes, 28 à Saint-Étienne, à Annecy et à Amiens, à Paris, Strasbourg, Biarritz et Clermont-Ferrand, 29 degrés, à Brive-la-Gaillarde, 31 et 33 dans le Bordelais. Dimanche, la chaleur grimpera encore d'un cran avec généralement 24 à 34 du nord au sud. Il fera très chaud dans le sud de l'Aquitaine et sur le centre de la France. On se situera 6 à 9 degrés au-dessus des normales de saison. Comme prévu, le retour du beau temps estival est garanti pour tout le week-end. Et ce retour du beau temps est lié à l'anticyclone des Açores qui vient se centrer en plein sur la France.
Merci Valérie Darmon. Restez avec nous à suivre dans votre journal de la nuit. La bourse avec Claire Lemaître et puis l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Eric Babola, PDG de Babola. On se retrouve dans un très court instant.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Sophie Tussaud sur Europe 1.
Et il est 22h17 sur Europe 1 et on fait un point bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Sophie.
Et Donald Trump fait encore peur à Wall Street ce soir.
Oui, encore des secousses sur les marchés. Le Dow Jones perd 1,41%, 24 815 points. Le Nasdaq lâche 1,51%, 7 453 points. Nouveau coup de pression dans la guerre commerciale après la Chine. Donald Trump s'attaque au Mexique. Le président américain a annoncé des droits de douane de 5% sur tous les produits importés du Mexique à compter du 10 juin. Des taxes qui seront progressivement relevées jusqu'à 25% le 1er octobre. Alors ces annonces font beaucoup de victimes en bourse ce soir. On a en première ligne les constructeurs américains. Les nouvelles taxes s'appliqueront a priori aux véhicules construits dans leurs usines mexicaines et importés aux États-Unis. General Motors perd 4,2%, Ford moins 2,4%, Fiat Chrysler plonge de 5,9%.
Et le secteur technologie aussi accuse le coup.
Oui, on a des baisses sévères pour les grands groupes technologiques. Facebook, moins 3%, Apple, moins 1,8%, Amazon, moins 2,3%, Netflix, moins 2,4%. Le pétrole poursuit son plongeon. À New York, le baril chute encore de 5,5%. On est à 53,50$. Et puis, pour compléter le tableau bien négatif ce soir, eh bien, le dollar perd du terrain. Et du coup, l'euro monte de 0,4%, 1,1172$.
Et la fin de semaine a également été compliquée à Paris.
Oui, la décision choc de Donald Trump de taxer toutes les importations de produits mexicains pèse aussi à Paris. Le CAC 40 perd 0,79%, 5 208 points. La semaine a été difficile globalement pour le CAC avec un indice qui perd encore 2%. Le mois de mai aussi a été mauvais, plombé par ces tensions commerciales. L'indice a décroché de 6,8% depuis le 1er mai. Ce soir, comme à Wall Street, les valeurs automobiles cotées à Paris subissent de plein fouet le dernier coup d'éclat du président américain. Renault chute de 4,5%, Valeo moins 2,1% et Faurecia moins 3,6%.
Et on note du rouge également pour les matières premières.
Du rouge vif même pour Eramet qui chute de 4,7%, Vallourec moins 1,9%, Technip FMC moins 2,5%. Dans le secteur du luxe qui est sensible aussi aux tensions commerciales, Kering recule de 1,8%, LVMH moins 0,9%. Cette guerre commerciale fait déprimer les marchés en Europe. Francfort lâche 1,5% ce soir, Londres moins 0,8%, Bruxelles moins 0,8% également, Madrid moins 1,7%, Milan moins 0,7% et le CAC 40, Sophie, perd 0,8% à 5 208 points.
Merci Claire Lemaître de boursier.com. Prochain point sur la bourse, sur Europe 1, ce sera lundi soir.
L'invité écho avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour imprimer des timbres depuis son bureau.
Et il est 22h20 sur Europe 1, l'heure du rendez-vous écho avec Emmanuel Duteil et son invité. Emmanuel, vous recevez ce soir Éric Babola, PDG de Babola.
Bonsoir Éric Babola.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Alors Babola, c'est une marque quand même très connue aujourd'hui, un leader mondial des raquettes et des cordages. Grâce à vous, on est quasi certain qu'il y aura un Français, au moins en finale de Roland-Garros, et sûrement un Français qui gagnera Roland-Garros parce que vous équipez, allez, on va dire, les meilleurs joueurs du monde, dont Raphaël Nadal. Vous êtes prêt à gagner encore un nouveau Roland-Garros ?
Ah bah ce sera avec plaisir. L'histoire de Babola est liée à l'histoire du tennis depuis 5 générations pour ma famille, avec l'invention par mon arrière-grand-père du cordage de tennis en 1875. Au moment où les règles du tennis apparaissent, au moment où le tennis est né, c'est 2 ans avant le premier Wimbledon. Et depuis lors, Babola équipe beaucoup de champions, dont les premières stars du tennis mondial, les fameux mousquetaires du tennis français, Suzanne Lenglen, qui jouait avec nos cordages. Aujourd'hui, Nadal, effectivement, Dominic Thiem ou le jeune Félix Auger-Aliassime sont avec nos produits. Donc, si ce n'est pas un Français joueur, c'est un Français qui les équipe, qui a des chances de gagner Roland-Garros.
Alors, quelles vont être les innovations? Puisqu'il y a quelques années, vous avez sorti la raquette connectée. Alors, c'est super quand on est joueur amateur. On sait à quelle vitesse on sert, on sait combien on fait de coups droits, de revers, etc., etc. Mais sur quoi vous travaillez pour demain?
Alors, bien sûr, sur des innovations de rupture comme le connecté, avec le fait d'enrichir l'expérience et d'apporter de la donnée pour progresser. Le tennis, c'est un sport de combat. Il faut battre l'autre, il faut être meilleur et c'est important de pouvoir mesurer ce qu'on fait pour pouvoir progresser. Bien sûr, toujours les matériaux pour pouvoir faire que ce soit en raquette avec des composites toujours plus légers tout en étant rigides et puissants. On travaille sur la structure des raquettes, leur forme qui aussi apporte contrôle et puissance. La même chose sur les cordages avec des matériaux qui, aujourd'hui, la grande tendance, c'est le spin, comme on dit, le lift, et donc avoir des cordes qui donnent plus de lift, qui permettent de garder la balle dans le terrain. On travaille aussi également sur le jeu de jambes, les chaussures qui sont très importantes dans le tennis, le fait de changer de direction très vite, à la différence de la course où c'est tout droit, on essaie de tenir son pied, le tennis c'est des relances latérales pour repartir de droite et de gauche, donc on invente des technologies pour faciliter ça. On a d'ailleurs, on travaille avec une autre entreprise française sur ce sujet qui est Michelin, qui nous aide pour la structure de nos semelles extérieures qui, bah, par exemple sur la terre battue, doivent permettre de glisser par moment, d'accrocher et de relancer le pied tout en évacuant la terre pour ne pas se retrouver avec des semelles complètement lisses.
Alors pour vous, c'est 15 jours de Roland-Garros, c'est 15 jours d'un travail intense. On est là sous le cours numéro 1 de Roland-Garros. C'est à l'endroit où vous avez installé toutes vos machines pour corder, puisque vous cordez l'intégralité des raquettes des joueurs de Roland-Garros.
Exactement, que ce soit les garçons, les filles, les juniors, les seniors, les fauteuils. Et c'est presque 3 semaines pour nous, puisque le travail a commencé avec nos techniciens la semaine des qualifications. On a 20 techniciens. Là, on fait le cordage, mais on appelle ça le service raquette, puisqu'on customise aussi les raquettes, on les équilibre, on les nettoie, on les prépare, effectivement, pour l'ensemble du tableau, pas seulement les joueurs qui sont en Babola. Et on en est très fiers, avec de plus en plus de raquettes préparées. L'année dernière, on était à plus de 5000, et je pense qu'on va encore dépasser ce record cette année, ce qui montre la confiance des joueurs dans ce service qui est important pour eux. Le tennis, c'est du physique, mais c'est beaucoup de psychologie qu'il faut, et les joueurs professionnels ont confiance pour nous en ça. Il faut être confiant dans le fait que son matériel est au top et parfait pour se concentrer sur son jeu, et je considère que les chiffres qui montent montrent qu'on contribue à cette confiance pour les joueurs.
Mais ce qui est impressionnant, vous m'avez montré, on pourrait tout à fait avoir la raquette de Nadal à côté de celle de Djokovic ou de celle de Federer ou celle de Dominic Thiem. Chacun est un peu au même niveau. Il n'y a pas un peu, comment je pourrais dire, d'espionnage industriel? Chacun regarde la raquette de l'autre en disant tiens, oui, la cordée a telle tension, je vais remonter un peu parce que face à lui, il va falloir faire ça.
Oui, alors bien sûr, effectivement, c'est comme si les stands de Formule 1 étaient les mêmes pour toutes les écuries. Et les joueurs savent, et c'est public, ce qu'utilisent les autres, donc ils le regardent. Et effectivement, quand un joueur gagne avec un matériel ou avec une corde ou avec une tension, on voit les autres dire « Ah tiens, j'essayerais bien de faire pareil ». Donc, alors, c'est pas vraiment de l'espionnage industriel, ça fait partie de la compétition, tout le monde est à côté des autres. Et le fait que Babola soit un des acteurs ne pose pas de problème aux joueurs pour avoir confiance en nous, même s'ils ne sont pas équipés de nos produits.
Est-ce que du coup, ça se voit aussi sur vos ventes dans les magasins, chez vos revendeurs, cette période de Roland-Garros, puisque tout ce qu'on en est, on regarde éventuellement la télévision, on se dit « Tiens, Nadal, il a une super raquette, j'ai envie d'avoir la même ». Ça se voit dans les ventes?
Bien sûr, on a la chance avec Roland-Garros, dont on est partenaire depuis beaucoup d'années, avec qui on développe l'excellence sur le tennis. Roland-Garros est au moment où il commence à faire beau, normalement les gens sortent les raquettes de leur housse pour jouer, en plus de ceux qui jouent toute l'année en club, donc c'est une période très propice pour l'ensemble des clubs et des joueurs. Il y a aussi la fête du tennis qui se passe dans beaucoup de clubs en ce moment, donc forcément les ventes des magasins de sport qui soit équipent les joueurs de nouveaux produits, soit remettent à jour leur matériel, font un petit peu ce qu'on fait ici pour les pros, c'est-à-dire remettre la raquette à jour, la recorder, remettre une bonne tension, rechanger le grip. C'est un moment très favorable, donc on en profite effectivement pour avoir des enjeux de business qui sont importants en ce moment, bien sûr.
Le fait que les joueurs français soient pas au top, est-ce que c'est un problème pour vous ou finalement aujourd'hui, à partir du moment où vous avez les meilleurs joueurs au monde, de toute façon dans vos joueurs Babola, vous avez même pas cité un français tout à l'heure.
Si, on en a aussi, comme son gars. Oui, bah c'est... L'entreprise est internationale et le partenariat avec Roland Garros aussi, donc le fait d'être dans plein de pays fait qu'on est sur le développement de ce sport dans son ensemble. C'est sûr que si un Français performe très fort à Roland Garros, ça fera du bien au marché français, ça donnera envie à beaucoup plus de Français de jouer au tennis. Donc dans ce sens-là, oui, ça nous pose question et on a très envie que ça arrive de nouveau, même si malheureusement ça semble pas être pour tout de suite.
Un petit pari pour la fin ? Parce que vu qu'ils sont quasiment tous vos joueurs.
Oui, bah, on a... Aussi incroyable que ça puisse paraître, le fait que Nadal fasse une 12e paraît possible et choque personne, alors que c'est quand même extraordinaire. Quand Borg a gagné 6 fois, on s'est dit bah, c'est un monstre qu'on ne dépassera jamais. Donc bien sûr, il est favori. Dominic Thiem, qui était en finale contre lui l'année dernière, fait partie de notre équipe et fait partie de ceux qui ont des chances. Malheureusement, on n'a pas le jeune prodige de 18 ans, Félix Auger-Aliassime, là, qui s'est blessé et qui n'a pas pu jouer à Roland Garros. Mais je pense que ce joueur va nous surprendre et va arriver très fort dans les années qui viennent.
Merci beaucoup, Eric Babola, le patron de Babola, le leader mondial des raquettes et des cordes, était donc notre invité. Je vous rappelle qu'Europe 1 est également la radio partenaire de ce tournoi de Roland Garros que vous pouvez suivre donc chaque demi-heure sur l'antenne d'Europe 1. On se retrouve lundi.
Merci Emmanuel Duteil, c'était l'invité écho. Vous pouvez bien sûr écouter cette interview sur le site d'Europe 1, europe1.fr.
C'était l'invité écho avec laposte.fr/pro. Gagnez du temps en imprimant vos timbres depuis votre bureau selon vos besoins à n'importe quelle heure de la journée.
Restez avec nous, on jette un coup d'œil sur les titres que vous retrouverez à la une de vos journaux demain matin dans un très court instant. À la une de la presse, demain, les européennes à peine terminées. Le Figaro s'intéresse à un autre scrutin municipal. Les grandes manœuvres commencent. Les partis peaufinent leur stratégie en vue de l'élection de 2020, alors que La République En Marche et le Rassemblement National comptent profiter de la recomposition. La droite, elle, s'interroge. Le Figaro Économie s'intéresse au commerce après la Chine. Trump s'attaque au Mexique. La menace de droits de douane du président américain contre son voisin pour résoudre la crise migratoire a surpris à Washington et fait trembler les marchés. La flèche de Notre-Dame de Paris en une du magazine du Monde de la Libération de Paris à la collecte pour la reconstruction. Notre-Dame, une passion américaine, alors que des milliers de dollars de dons sont venus des États-Unis pour reconstruire la cathédrale parisienne. L'Union choisit de mettre à la une la photo de Kevin. Un an après, les souvenirs et la douleur. Il y a un an, Kevin, 17 ans, était assassiné à Mourmelon-le-Grand. Un an après, le choc est toujours dans les esprits. Ouest France, pour sa part, choisit de mettre à la une le béret vert français qui a débarqué le 6 juin. En photo, un monsieur, béret vert sur la tête. Ce monsieur, c'est Léon Gauthier, 96 ans. Il est l'un des 3 fusiliers marins du commando Kieffer, encore en vie. Emmanuel Macron leur rendra hommage jeudi prochain. L'Est Éclair, de son côté, s'intéresse aux vieux diesels. Les vieux diesels qui vont souffrir, car au 1er juillet, le contrôle technique sera plus sévère pour ces moteurs. Certaines voitures trop vieilles ou trop neuves pourraient d'ailleurs être recalées. Il est 22h30 sur Europe 1 et avant de retrouver la libre antenne, on retourne à Créteil, on retrouve Julien Froment. Julien, comment ça se passe pour les Françaises face aux Chinoises ? Match amical.
Ah bah écoutez, ça va mieux pour les Françaises hein, depuis le deuxième but inscrit à la 58e minute par Kadidiatou Diani. Une superbe frappe à l'entrée de la surface de réparation. Les Bleus qui ont mené assez rapidement 1-0 dans cette partie avant que la Chine n'égalise à la 52e. C'est Valérie Gauvin qui avait inscrit le but du côté des Bleus. Et puis les Françaises là ont effectué quelques changements avec notamment la rentrée d'Emeline Laurent ou encore de Viviane Assayi. Bref, Corinne Diacre, la sélectionneur, fait un petit peu tourner pour donner du temps de jeu à un maximum de joueuses possible, car on le rappelle, dans une semaine, c'est le début de cette Coupe du Monde féminine qui aura lieu en France avec le match d'ouverture au Parc des Princes.
Et la France sera vendredi prochain.
La Corée du Sud, tout à fait. 74e minute de jeu, donc 2-1 pour la France face à la Chine.
Merci Julien Froment. Allez, maintenant c'est l'heure de la libre antenne. Bonsoir Sabine Marin.
Bonsoir Sophie.
Comment allez-vous?
Ça va, je souriais. Je trouvais que les sportifs sont toujours bavards. Hein. Ils ont toujours plein de trucs à raconter.
Ah mais oui, mais c'est tellement intéressant. Et puis nous font vivre les matchs.
Et puis nous aussi on est bavards en réalité.
C'est vrai.
On se retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point Sophie.
À tout à l'heure Sabine.
À tout à l'heure.